Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Christophe Castaner reconnaît des failles dans le suivi de l'auteur de la tuerie à la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur est appelé à démissionner par l'opposition. Retour sur un cafouillage politique avec Adrien Palluet.
Et le ministre sera cet après-midi à l'Assemblée nationale pour un débat sensible sur l'immigration. La question de l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier pourrait ressurgir.
Des chaînes de télévision irakiennes attaquées ce week-end à Bagdad. Reportage de notre correspondante Lucille Wasserman. Nous ferons le point aussi sur la situation politique au Portugal après les élections législatives remportées par les socialistes hier. Après ce journal, la question du jour, Guillaume.
La Convention citoyenne peut-elle faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique? On posera la question au professeur de sciences politiques Loïc Blondiot.
L'opposition réclame sa démission, mais le ministre de l'Intérieur résiste pour l'instant. Christophe Castaner tente de reprendre les choses en main après l'attaque meurtrière jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. 4 personnes sont mortes. L'assaillant, un homme habilité secret défense, a été abattu. L'assaillant, dont il avait très vite dit, un peu trop vite même, qu'il ne présentait aucun signe de radicalisation. L'enquête du parquet national antiterroriste a démontré le contraire. Désormais, le gouvernement essaie d'éteindre l'incendie, Adrien Palluet.
Hier matin, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui dégaine le premier. Il annonce la création de 2 missions internes au service de renseignement. Objectif, renforcer les dispositifs de détection et de traitement des cas de radicalisation. Christophe Castaner et Laurent Nunez suivent, respectivement sur TF1 et BFM TV. Le ministre de l'Intérieur reconnaît des failles dans le système et tente de se défendre. S'il y avait eu un signalement, cet homme aurait fait l'objet d'un nouveau criblage, c'est-à-dire une enquête approfondie de sa vie personnelle, explique-t-il. Une procédure normale pour un homme habilité secret défense. Mais la reconnaissance des dysfonctionnements ne suffit pas à redonner de la crédibilité à l'homme fort de la place Beauvau aux yeux de l'opposition. On lui reproche de s'être précipité dans ses déclarations à la suite de l'attaque, ou pire, d'avoir menti sur le profil de l'informaticien. Des personnalités politiques à gauche comme à droite réclament sa démission. De son côté, Christophe Castaner sera auditionné demain par la délégation parlementaire au renseignement. Pour le vice-président de la délégation, François-Noël Buffet, tout ceci relève d'une affaire extrêmement grave qui pourrait fragiliser les services de renseignement français.
Et des zones d'ombre persistent dans l'enquête sur l'assaillant, notamment le rôle joué par son épouse. Elle a été remise en liberté hier soir. Le cabinet indépendant Occurrence a compté 74 000 manifestants dans les rues de Paris hier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Les organisateurs, eux, 600 000. La procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires et les couples de femmes est une mesure phare du projet de loi bioéthique, mesure adoptée en première lecture le 27 septembre dernier par l'Assemblée nationale. Le débat sur l'immigration commencera cet après-midi à l'Assemblée, sujet sensible, alors même que l'utilité de l'aide médicale d'État est questionnée. Elle sert aux étrangers en situation irrégulière. Nathalie Godard est responsable du plaidoyer à Médecins du Monde.
Nous sommes inquiets que l'aide médicale d'État soit utilisée, instrumentalisée dans un débat qui n'a rien à voir avec la santé pour justifier une politique migratoire ou utilisée comme une variable d'ajustement de la politique migratoire. L'aide médicale d'État, c'est un filet de sécurité pour les personnes les plus démunies en France. Il doit être vraiment préservé, voire renforcé pour éviter des problématiques en termes de santé publique notamment. L'aide médicale d'État permet à des personnes très précaires d'avoir accès aux soins. Ces personnes, nous, on les rencontre dans nos centres de santé. Ils ne viennent pas en France parce que l'aide médicale d'État existe. Ils viennent en France pour plein d'autres raisons et ils découvrent que l'aide médicale d'État existe pour la plupart. En tout cas, c'est notre constat. Donc, considérer que réduire l'aide médicale d'État va permettre d'avoir un impact sur le flux migratoire est totalement illusoire et c'est un message qui est un message politique sur la question migratoire, mais qui est un message très négatif sur la question de la santé. Des personnes qui ne peuvent plus avoir facilement accès à la médecine de ville vont s'éloigner du système de santé, mais tomberont quand même malades, et ne pouvant aller chez le médecin généraliste, finiront aux urgences dans un état de santé dégradé, avec une prise en charge qui sera plus complexe, plus coûteuse, et qui viendra désorganiser, en tout cas peser sur le système des urgences, alors qu'elles auraient pu être prises en charge en ville chez un médecin généraliste.
Nathalie Godard de Médecins du Monde, propos recueillis par Catherine Pétillon. À suivre le reportage de 7h24 consacré ce matin aux droits des étrangers en France. Ils auront la lourde tâche de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Convention citoyenne pour le climat voulue par le gouvernement a commencé. 150 citoyens français tirés au sort étaient réunis pour un premier week-end de travail à Paris. Et ils ont beau ne pas tous être des spécialistes de la politique ou de l'écologie, ils ont envie d'y croire. Cédric Carmel a rencontré des participants.
L'hémicycle du Conseil économique, social, environnemental est plein. Au centre, un ministre, un syndicaliste et un patron répondent aux questions de 150 citoyens tirés au sort, comme Adèle, 22 ans. Cette étudiante en droit attend de voir l'impact de cette réunion de citoyens.
Changer des choses, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, ils nous font comprendre que oui. Sur ça, ils nous rassurent. Ils nous disent que la parole, elle est libre, on est indépendant. C'est vraiment nous qui prenons les décisions.
C'est la finalité de cette convention, des idées de citoyens qui se transforment en loi. Idée issue du grand débat national après plusieurs mois de manifestations des gilets jaunes partout en France. Pourtant, pas encore de propositions concrètes, mais des conseils de juristes pour transformer ces idées. Une remise à niveau bienvenue pour Claire, une infirmière de 56 ans.
On pose des socles parce qu'on part pas tous du même niveau, qu'on a besoin d'avoir des informations. Comment fonctionnent les lois en France, les décrets, les arrêtés, enfin un peu le distinguo entre chacun, ce qui est important, tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Qu'on a commencé à toucher du doigt des petites mesures qu'on pourrait mettre en place.
Une première étape importante pour remplir l'objectif de la convention, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. C'est en tout cas l'avis de Laurent Berger, leader de la CFDT.
Cette convention, elle a ceci d'intéressant qu'elle va devoir taper dans le dur d'une certaine manière. C'est-à-dire que sur les paradoxes qui sont les nôtres, les contradictions qui sont les nôtres, en termes de choix à faire pour s'inscrire dans une réelle transition écologique.
Les conclusions de la convention citoyenne pour le climat seront rendues en janvier prochain.
La convention citoyenne peut-elle faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique? On en discutera après ce journal, c'est la question du jour. Vous ne connaissez sûrement pas le nom de cette entreprise. Bonasabla est le leader du béton préfabriqué. Le Mucem à Marseille, la fondation Vuitton, le métro parisien, c'est Bonasabla. Les salariés s'inquiètent d'un nouveau plan de licenciement alors que les effectifs ont déjà été fortement réduits. C'est une information France Culture, plus de détails à 8h. Dans la tentative affaire Karachi, le procès du volet financier s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Des soupçons de financement illégal pèsent sur la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 95. Trois politiques, un industriel et deux intermédiaires devront répondre d'abus de biens sociaux ou de complicité et recel de ce délit.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre, les violences en Irak ont fait plus de 100 morts.
8 manifestants ont encore été tués hier à Bagdad, lieu d'affrontement avec les forces de l'ordre depuis près d'une semaine. Les manifestants réclament le départ du gouvernement accusé de corruption et des réformes économiques. Ce week-end, des chaînes de télévision irakiennes ont été attaquées. Leurs locaux sont tous situés sur une même avenue. Lucille Wasserman s'est rendue sur place.
Rien ne fait redescendre la colère dans les rues de Bagdad. Chaque jour, une fois le soleil couché, les manifestants reprennent les rues et de nouveaux affrontements éclatent avec les forces anti-émeutes. Chaque jour, de nouvelles familles irakiennes pleurent la perte d'un de leurs proches, tué par les forces de sécurité ou par des tirs de snipers dont personne ne connaît pour l'heure l'identité. Une violence qui s'abat également sur les médias depuis ce samedi, alors que 3 chaînes de télévision ont été prises pour cible par des groupes armés. Les bureaux ont été ravagés, pillés et en partie brûlés. 6 jours maintenant que la contestation a fait basculer Bagdad dans la violence et que le sud de l'Irak s'est également embrasé. Le premier ministre irakien a tenté d'apaiser la colère ce dimanche en publiant un plan de mesures sociales visant à satisfaire les demandes de ses manifestants. Des manifestants qui continuent, eux, de se mobiliser sans parti ou chef religieux pour protester contre le chômage, la corruption endémique et les services publics défaillants.
Lucille Wasserman pour France Culture. 2 formations politiques rivales affirment être en tête des élections législatives en Tunisie hier. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda d'un côté et celui du candidat incarcéré Nabil Karoui de l'autre. La participation en atteindrait que 40% environ. Des législatives au Portugal aussi remportées par les socialistes. Le Premier ministre António Costa sort renforcé de ce scrutin, mais il gagne sans majorité absolue, Isabelle Labéry.
Ce résultat est une vraie revanche, car en 2015, pour accéder au pouvoir, António Costa avait dû négocier pied à pied le soutien de la gauche radicale et du Parti communiste. Cette fois-ci, sa victoire lui donne beaucoup plus de marge. Un seul allié devrait suffire, sans doute le bloc de gauche qui, hier soir déjà, se disait prêt à discuter. Ces élections sont en tout cas un plébiscite pour la méthode Costa. Arrêt des coupes budgétaires, relance de l'économie, amélioration du pouvoir d'achat et bonne tenue des comptes publics. Les 4 ministres qui s'étaient présentés comme chefs de file dans différents districts ont tous les 4 été élus. Les résultats du vote sont bien évidemment scrutés de très près par le voisin espagnol qui organise en novembre ses deuxièmes élections générales de l'année. Le leader socialiste Pedro Sanchez pourrait être tenté d'accepter une équation similaire entre son parti et les antisystèmes de Podemos. Mais Lisbonne espère surtout que sa recette anti-austérité aura de l'écho bien au-delà, jusqu'à Bruxelles, alors que l'Union craint une nouvelle récession dans la zone euro.
Le Portugal, qui sera au cœur de la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. Christie's organise une vente aux enchères exceptionnelle cet après-midi à Paris. 16 lettres du célèbre Marcel Proust à son ami René Blum et qui y permettent de découvrir une facette méconnue de l'écrivain Nourane Mahmoudi.
Dans ses lettres mises en vente aujourd'hui, Marcel Proust se révèle ambitieux, loin de sa réputation d'homme modeste. Il demande l'aide de son ami René Blum pour faire publier chez Grasset, du côté de chez Swann, puis, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, chez Gallimard, pour tenter d'augmenter ses chances au Goncourt. Michel Schneider, écrivain et spécialiste de Marcel Proust.
Très émouvant de voir des lettres de Proust et celles-ci ont un intérêt particulier. C'est pas des lettres qui tournent autour de questions personnelles, c'est des lettres qui tournent autour du Goncourt lui-même, du rapport de Proust à la célébrité.
Dans son ambition, Marcel Proust était prêt à passer d'un éditeur à l'autre. Il était d'ailleurs parfaitement conscient des enjeux qui entourent la publication d'un ouvrage, notamment en termes de prix. Il était prêt à fixer des prix plus bas pour toucher plus de monde et accroître ses chances de notoriété.
C'est de voir que Proust, dont on dit qu'il était indifférent et à son Goncourt et à la célébrité, en fait se montre très avide de se faire reconnaître et de se faire aider en cela par des amis influents dans le milieu de l'édition. Je crois qu'il était parfaitement conscient, je dirais, non seulement de son importance, mais de son génie.
En vente, aujourd'hui, ces lettres ont une valeur estimée entre 200 000 et 300 000 euros.
Une vente organisée à l'occasion du 100e anniversaire du Goncourt de Marcel Proust pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Des nuages attendus aujourd'hui sur une grande partie de la France, sauf la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce matin, les températures varient entre 8 et 14 degrés, Guillaume.